Il y a deux législations contraignantes au niveau européen. Une sur l'interdiction de l'ensemble des discriminations sur tous les fronts et l'autre spécifique à la lutte contre le racisme et la xénophobie qui touche l'interdiction de discriminer sur base de la race ou de l'origine ethnique pour un ensemble de sujets, l'éducation, le travail, la fourniture de biens et services, la santé et autres avantages. Et la deuxième qui est plus récente, donc la première législation dont je parle, elle date de 2000, et la deuxième qui est plus récente, qui date de 2008, elle, c'est une, ce qu'on appelle en jargon européen une décision cadre, c'est-à-dire une décision générale qui explique et qui donne des orientations et des obligations aux différents États pour traiter un certain nombre d'actes de manière criminelle, de manière pénale. Donc, est considérée comme criminelle toute dénégation de faits racistes, tout amenuisement de faits racistes, toute parole raciste, toute action raciste. Et chaque pays doit prendre les mesures nécessaires pour avoir des sanctions sur l'ensemble de ces domaines. Donc ça, c'est l'action historique qui est d'ailleurs typiquement européenne, qui est d'avoir un cadre contre le racisme. Et je pense que ça vaut la peine de noter que ça a été adopté au début des années 2000 et que l'action européenne a commencé dans la fin des années 90 en liaison directe avec les perspectives de l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale pour lesquels on savait qu'il y avait un problème général par le passé de respect des droits de l'homme, des attitudes assez spécifiques dans certains pays en matière en particulier d'antisémitisme, et puis aussi le problème des minorités qui dans ces pays restent très compliqué. Tout ça a été transcrit et mis en œuvre dans le dernier traité de l'Union européenne, le traité de Lisbonne de 2009, où il y a maintenant trois articles qui sont consacrés directement aux droits de l'homme, y compris celui concernant la lutte contre le racisme et plus généralement contre les discriminations. L'article 2 qui consacre les valeurs de l'Union, sur lesquels on est en train d'agir d'ailleurs à l'encontre de pays qui ne respectent pas ces valeurs comme la Pologne ou la Hongrie. Donc un article contraignant. L'article 3 autour des questions fondamentales liées à l'Union, notamment le respect de la dignité humaine. Et l'article 7, qui est celui qu'on utilise pour la Hongrie et la Pologne, qui prévoit des sanctions en cas de non-respect des droits fondamentaux et des valeurs. C'est un article très difficile à mettre en œuvre, on le voit pour les deux pays, mais c'est la première fois qu'il y a un article contraignant. Et puis il y a une charte européenne des droits fondamentaux, dont le principe de non-discrimination, en particulier sur base de la race, est interdit. Ce qui a été adopté au niveau européen, c'est un code de conduite avec les grandes plateformes du type Amazon, Twitter, Google, Facebook, YouTube, etc., par lesquelles ces sociétés se sont engagées à retirer le contenu raciste des propos et à arrêter la diffusion. Et on a constaté dans une toute récente évaluation de ce code, c'est la quatrième évaluation du genre, que là où on avait un retrait de 40% autrefois de ce type de propos, on arrive maintenant à une proportion de 88%. Alors c'est quand même, je pense, intéressant, même si c'est non contraignant, ça prouve qu'il y a du côté de ces plateformes une volonté de ne pas continuer dans cette voie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le soft law, qui est accompagné d'une série de recommandations qui sont faites par la Commission européenne, à la fois aux plateformes et aux États pour suivre la mise en œuvre de ce code de conduite. On a des enquêtes qui s'appellent les enquêtes Eurobaromètre, par laquelle régulièrement on teste l'opinion de la population sur tel et tel sujet. On vient de faire, alors, il y a eu plusieurs enquêtes sur le racisme, on vient de faire tout récemment une enquête sur l'antisémitisme qui montre deux choses intéressantes et préoccupantes. La première, c'est que 9 juifs européens sur 10 considèrent qu'il y a une montée et une augmentation de l'antisémitisme. Et par contre, on voit que seulement 4 Européens sur 10, autres que les Juifs européens, considèrent que ça n'est pas un problème majeur, que dans l'ensemble, les choses ont bien avancé. Alors c'était une enquête, je dois le dire, qui a été faite en 2018, donc avant tous les événements qu'on a pu voir récemment et toutes les déclarations qui ont pu être faites sur ce sujet. Mais néanmoins, on voit quand même la distorsion entre ceux qui sont directement victimes de l'antisémitisme et ceux qui ne le sont pas directement. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel la Commission a promis d'essayer d'agir. La deuxième chose, c'est le financement. Toute une série de budgets européens, le Fonds social européen, le Fonds pour les réfugiés, un Fonds pour la démocratie et la justice, soutiennent des actions qui sont des actions d'échange d'expériences ou des actions d'éducation qui visent à essayer de changer les comportements vis-à-vis du racisme et de la xénophobie et de l'antisémitisme. Je vais vous citer un exemple de ce qui a été fait dans le programme. Il y a un programme qui s'appelle Europe des citoyens, où il y a des jumelages. Et il y a eu un jumelage entre la commune d'Auschwitz, la commune de Dachau, et la commune d'Oradour-sur-Glane, donc Pologne, Allemagne et France, qui ont connu tous les événements que l'on connaît liés à la Shoah. Et ces communes ont fait ensemble un travail de devoir de mémoire sur ces sujets. Donc il y a eu un échange européen sur ce qui avait pu se passer et sur la manière d'essayer de restituer cette mémoire pour qu'elle ne se perde pas et qu'elle serve à éviter des choses aussi dramatiques à l'avenir. Alors, il y a un volet coopération internationale qui a lieu essentiellement avec Israël, un peu avec les pays arabes et également avec les partenaires africains, puisqu'on a un accord avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Alors, il y a d'abord un coordinateur européen qui a été nommé pour la lutte contre l'antisémitisme, un autre pour la lutte contre l'islamophobie, l'anti-musulman. On a chaque année un groupe à haut niveau de représentants européens, de représentants d'Israël pour essayer de voir comment on peut coopérer sur le sujet. Et il y a des séminaires réguliers avec l'Afrique et avec quelques pays arabes. Donc c'est, j'allais dire, très révélateur de ce qu'est l'action européenne en général. C'est un mixte d'actions. Ça commence toujours par du législatif, qui est contraignant, qui peut être traité devant la Cour de justice européenne, ce qui est important. Et puis, on complète en général par des actions plus soft ou des actions de coopération ou des actions plus volontaires qui sont en plus dans une période difficile au niveau européen et où il y a des assez profonds désaccords, y compris sur ce sujet. La législation en tant que telle est beaucoup plus difficile à faire adopter maintenant et on est plutôt sur du soft law, de la coopération et du soutien financier.